terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle lui.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, c'est le générique. Voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça un générique. En tout cas, c'est histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà, pour la chronique Astro, Michel, bonjour.
Bonjour, Joël.
Voilà, donc désolé pour le décalage, mais c'est vrai qu'avec l'actualité, voilà, il faut s'y adapter. Voilà, et on avait beaucoup de monde ici à la radio, mais là, on ne va pas extrapoler parce qu'on est toujours ravis, bien sûr, d'avoir du monde. Voilà, on a pu parler de ce beau festival interculturel toute l'attitude. Mais là, ben, je vous laisse sur la chronique astro numéro 412. Enfin, je vous laisse. Bien sûr, je vais juste la lancer, car comme d'habitude, bien sûr, le premier point, c'est l'actualité, et notamment la station spatiale chinoise qui s'agrandit.
Oui, alors comme nos auditeurs ont pu l'entendre dans les médias lundi, la Chine a procédé au lancement du troisième module de sa nouvelle station spatiale baptisée Tiangong, ce qui voudrait dire en chinois « palais dans le ciel », la troisième après Tiangong 1 et 2. J'en avais déjà parlé cet été suite au lancement le 24 juillet du deuxième module, Wentian, quête des cieux en chinois, un laboratoire spatial qui avait rejoint le module central Tian-E, ou Harmonie Céleste, lancé lui le 29 avril 2021, module d'habitation et de support de vie qui alimente l'ensemble en énergie et assure le maintien en orbite. Le troisième module lancé lundi est Mengtian, ou Rêve des cieux, un second laboratoire spatial d'environ 18 mètres de long et 4,20 mètres de diamètre pour une masse de 23 tonnes. L'ensemble constitue la version complète de la station en forme de T qui est comparable à l'ancienne station soviétique Mir des années 1980-90 avec sa taille de 55 mètres par 34 et une masse totale d'environ 100 tonnes. La Chine fait cavalier seul dans le domaine des longs séjours dans l'espace en orbite basse autour de la Terre depuis que la NASA a refusé sa participation à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, en 2011. La réussite de ce projet est une nouvelle preuve des ambitions chinoises qui couvrent, malgré son isolement, tous les domaines de l'exploration astronautique, des missions lunaires avec les sondes Chang'e et ses projets de missions lunaires humaines, jusqu'à la mission martienne Tianwen-1 de 2020 et des projets d'exploration du système solaire à destination de Jupiter, Neptune et d'astéroïdes et de comètes. Pour nos éditeurs qui observent le ciel, on peut voir passer la station chinoise, même si elle est nettement moins lumineuse que l'énorme ISS. On peut trouver les prévisions de passage sur des sites d'astronomie comme par exemple Events Above. Ces jours-ci, c'est plutôt le matin entre 6h et 7h et jusqu'au 17 novembre. Ariane 6 prend du retard.
Oui, pardon, parce que je n'avais pas vu la date. Non, j'ai regardé, vous avez annoncé une date, Michel. Oui. Et du coup, je me suis dit, je vois pas d'où cet impair. Effectivement, pardon du coup. Là, je me disais, je vois pas cette date du mois de novembre. Allez, vous êtes toujours sur votre chronique Astro. Et dans le cas de l'actu, voilà, vous allez commencer, désolé. Ariane 6, donc, qui prend du retard.
Voilà, face à ces réussites chinoises, l'Europe patine un peu. Car l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a annoncé le 19 octobre que le premier vol de test du nouveau lanceur lourd Ariane 6 n'aurait lieu qu'au deuxième semestre 2023. Initialement prévu pour entrer en service en 2020, on attendait ses premiers tests au début de l'année prochaine. La raison de ces retards est bien entendu la crise sanitaire du Covid, mais les explications de ce nouveau report restent assez floues, imputées à différentes difficultés techniques, notamment pour les nouvelles installations de lancement. Ce retard d'Ariane 6 est pénalisant pour de nombreux projets, puisque les tirs d'Ariane 5 doivent s'arrêter début 2023. Et comme nous l'avions expliqué en février dernier, la crise ukrainienne et l'arrêt des coopérations avec la Russie obligent au report de certaines missions sur Ariane 6 au lieu des lancements prévus initialement avec des Soyouz. C'est le cas notamment du télescope spatial européen Euclide, du satellite militaire français CSO-3 et de la mission martienne ExoMars de l'ESA, prévue initialement en 2018 et qui devait être lancée en septembre par une fusée russe Proton et qui est théoriquement reportée à novembre 2024 avec Ariane 6. Comme nous l'avions expliqué, ces reports sur le lanceur européen créent une sorte d'embouteillage, si je peux dire, par rapport aux capacités de tir de ce lanceur, et son nouveau retard ne peut que compliquer encore un peu plus les plannings de ces missions. Et puisque nous parlons de report du lanceur européen, il ne faudrait pas oublier ceux du nouveau lanceur lourd de la NASA, le SLS, hein, Space Launch System, nécessaire à la réalisation du programme lunaire Artemis. Le premier tir de test sans équipage Artemis 1 était initialement prévu fin août, mais reporté en raison de problèmes techniques. Retenté le 27 septembre, il n'a pas pu avoir lieu à cause du cyclone Yann. J'en reparle car la prochaine fenêtre de tir possible commence le 14 novembre et on pourrait donc assister enfin à ce lancement prochainement. La NASA doit d'ailleurs faire un point sur ce lancement demain lors d'une conférence de presse.
Alors toujours dans le cadre de l'actualité, le JWST, voilà, je francise l'acronyme, nous envoie des images toujours aussi extraordinaires.
Alors depuis sa mise en service en juillet dernier, les astronomes s'extasient sur les performances exceptionnelles de ce nouveau télescope spatial dont les résultats dépassent les espérances. Et de temps en temps, le public peut apprécier une belle image qu'il nous envoie, comme en octobre, celle des fameux piliers de la création, rendue célèbre par une photo réalisée en 1995 par le télescope spatial Hubble. Il s'agit d'énormes nuages de gaz et de poussière, plusieurs années-lumière en taille, situés dans la nébuleuse de l'Aigle, à environ 6500 années-lumière de nous. Comme toutes les structures de ce type, ce sont des pépinières d'étoiles, selon l'expression consacrée pour désigner ces régions de formation de nouvelles étoiles. C'est de là que vient le nom de pilier de la création, un peu pompeux comme toujours avec les Américains. Comme nous l'avions expliqué à nos auditeurs, le JWST est notamment destiné à observer ces régions, car ses instruments fonctionnant dans l'infrarouge lui permettent justement de mieux percer ces nuages de poussière pour voir ce qui se passe à l'intérieur, et la formation de nouvelles étoiles faisait partie des missions pour lesquelles il a été conçu. C'est tout à fait clair quand on compare la version de Hubble, photographiée dans la lumière visible, hein, donc c'est là, visible à nos yeux, et celle du JWST réalisée dans l'infrarouge. On trouve très facilement ces deux images sur Internet, notamment sur le site de l'APOD, Astronomy Picture of the Day, mais depuis le site de Ciel et Espace, on a un lien vers une comparaison des deux clichés qui permet avec la souris de passer très facilement de l'une à l'autre, à la même échelle, ce qui est très révélateur de leurs différences.
Alors toujours dans le cadre de l'actualité astronomique, Lucie tire le portrait de la Lune et de la Terre.
Alors bien entendu, ce n'est pas Lucie, notre lointaine ancêtre australopithèque, mais la sonde qu'on a baptisée du même nom car la NASA vise avec cette mission à remonter aussi dans le lointain passé du système solaire en allant étudier des astéroïdes troyens de Jupiter, c'est-à-dire qui orbitent autour du Soleil sur la même trajectoire que la planète en se trouvant une position d'équilibre, d'attraction entre Jupiter et le Soleil qu'on nomme point de Lagrange, le mathématicien français qui a découvert cette possibilité d'équilibre à partir des lois de la gravitation de Newton. C'est cette stabilité d'orbite qui rend ces astéroïdes probablement inchangés depuis l'époque de leur formation, donc témoin des premiers âges du système solaire. Cette mission Lucie prévue sur 12 ans a commencé l'an dernier avec le lancement le 16 octobre 2021 et comme à chaque fois qu'on vise un objectif loin de nous dans le système solaire, on accélère l'engin en le faisant passer à proximité de planètes, ce qu'on appelle fronde ou assistance gravitationnelle. Pour Lucie, à deux reprises avec la Terre, ce 16 octobre, à seulement 350 km, soit environ l'altitude de l'ISS, puis le 13 décembre 2024, pour atteindre d'abord la ceinture d'astéroïdes, c'est-à-dire ceux situés entre Mars et Jupiter en avril 2025, puis son objectif, les Troyens de Jupiter, en août 2027. Pendant qu'elle se rapprochait de la Terre, on a braqué sa caméra pour avoir dans le champ à la fois la Terre et la Lune, alors que Lucie était encore à environ 1 million de kilomètres de nous. On trouve facilement cette photo sur Internet, mais il faut savoir qu'elle est trompeuse sur le rapport de taille entre les deux astres, hein, la Terre étant environ 4 fois plus grosse en diamètre que la Lune, et sur leur distance, par un effet de perspective, la Lune se trouvant en arrière-plan pour la sonde au moment de la photo. Par contre, elle permet de bien constater la différence de luminosité des deux corps. La Lune plus sombre, n'ayant qu'un albédo, c'est-à-dire la fraction de lumière solaire qu'elle réfléchit, de 15%, ce qui est à peu près comme l'enrobé de nos routes. en raison de sombres basaltes qui la composent, alors que les nuages et les océans sont bien plus réfléchissants, dotant la Terre d'un albédo d'environ 30%. Je parle aussi de Lucie pour une autre raison. Pour une meilleure réussite de cette mission, la NASA a fait appel aux astronomes amateurs afin qu'ils l'aident à mieux définir la trajectoire et la forme des astéroïdes que Lucie doit étudier. Ce qu'il est possible de faire avec un petit télescope quand il passe entre nous et une étoile, en provoquant une brève extinction de quelques secondes, événement qu'on appelle occultation, et n'est observable que le long d'une trajectoire bien précise à la surface de la Terre, un peu comme pour une éclipse de soleil. Or, dans la nuit du 22 au 23 octobre dernier, vers 4 heures du matin, Eurybat, le premier Troyen qui sera approché par Lucie en 2027, passait devant une étoile, occultation visible le long d'une ligne traversant l'Europe et notamment l'ouest de la France. L'AFA, l'Association française d'astronomie, ayant relayé cette expérience de science participative auprès des astronomes français, ils ont été plus de 700 à s'inscrire sur le site dédié pour tenter cette observation. Malheureusement, la météo n'ayant pas été bonne sur une bonne partie de la trajectoire prévue, il n'y aurait eu que quelques dizaines de mesures enregistrées. Mais cela suffira à améliorer la connaissance de ce petit corps et de sa trajectoire. À ce jour, les résultats sont encore en cours de calcul. Autre résultat qu'on attendait et qui concerne aussi un astéroïde, l'impact de la sonde DART le 27 septembre sur Dimorphos, dont je vous avais parlé la dernière fois, mais dont on n'avait pas encore les résultats, seulement la vidéo de l'approche jusqu'au crash filmée par la sonde elle-même. Dans les jours qui ont suivi, on a eu comme prévu les images du petit satellite italien Lycia Cube qu'elle avait largué quelques jours plus tôt, puis aussi celles prises par de gros télescopes terrestres. Elles montraient toutes que le choc avait été très violent et avait éjecté pas mal de matière du petit astéroïde, qu'il faut imaginer plutôt comme un agrégat de cailloux maintenus ensemble par une faible gravité que comme un rocher compact. On avait même mis en évidence une queue de débris et de poussière longue d'environ 10 000 km qui faisait ressembler l'astéroïde à une petite comète. Mais le verdict final est tombé avec la mesure de la période de révolution de Dimorphos autour de Didymos, qui était de 11h55 avant la collision et dont la NASA attendait qu'elle diminue d'environ 10 minutes. L'explication est simple, hein, en le percutant de face, la sonde allait le ralentir, ce qui le ferait se rapprocher un peu de Didymos, donc orbiter un peu plus vite selon les lois de Kepler. Au final, le résultat était bien plus fort que prévu puisqu'on a mesuré une diminution de 32 minutes. Et c'est encourageant pour notre capacité à dévier un jour un astéroïde qui viendra à menacer de percuter la Terre. Je rappelle que la mission européenne ERA doit aller voir de plus près le résultat du choc à partir de 2028, mais elle devrait être lancée en octobre 2024 par Ariane 6, fusée qui est en retard, comme je l'expliquais un peu plus tôt.
Allez, toujours dans le cadre de votre chronique, voilà, et si on est dans le bon ordre, on arrive sur le sujet du mois. C'est bien ça, Michel ?
Parce qu'il devait être le sujet de mars, mais du mois, mais on va le traiter un peu plus rapidement. Donc je voulais parler de Mars à cause d'une dernière actualité. On a pu entendre dans les médias ces derniers jours qu'on avait enregistré la chute de deux astéroïdes sur Mars. Ces impacts, si l'annonce n'a été publiée que la semaine dernière, remonte en fait à un an, en septembre 2021, puis surtout le 24 décembre, quand la sonde américaine InSight a enregistré une onde sismique assez forte, mais qu'on avait attribuée à l'époque à un tremblement de Mars, car on ne pensait pas qu'une chute d'astéroïdes puisse produire un choc aussi violent. Un séisme d'une magnitude supérieure à 4, alors qu'on n'attendait pas plus de 3 pour une chute météoritique. InSight est une mission de la NASA posée sur Mars depuis novembre 2018, dont l'objectif est l'étude de la structure interne de la planète, notamment avec son sismomètre CEIS, réalisé sous la direction du CNES français. Mais l'intérêt de cet événement a été relancé plusieurs mois plus tard, quand Lilia Posyolova a découvert un nouveau cratère à la surface de la planète rouge dans les images fournies par l'orbiteur EMERO, Mars Reconnaissance Orbiter, qui étudie Mars depuis 2006, et on a fait le rapprochement avec les enregistrements sismiques, puis trouvé le second cratère d'impact. Ils correspondent aux distances à InSight estimées pour l'origine de ces secousses, calculées à partir des propagations des différentes ondes sismiques dans les différentes couches du sous-sol martien. Le plus grand des deux est à environ 3500 km dans la plaine appelée Amazonis Planitia, le second à environ 7500 km dans la région de Tempe Terra. Ils font respectivement 150 mètres et 130 mètres de diamètre, avec des éjectas de matière jusqu'à une trentaine de kilomètres, ce qui correspondrait à la chute d'un bloc d'environ 5 à 12 mètres, soit dans les 250 à 650 tonnes, à une vitesse de 27 000 km/h. Et pour l'un d'eux, pas à la verticale, mais avec une inclinaison de 30 degrés. L'intérêt de cette découverte est qu'elle permet de situer très précisément l'origine des ondes sismiques captées par InSight et donc d'analyser plus finement leur propagation à l'intérieur de la planète. Et cela produira probablement une révision des modèles de la structure interne de Mars, car on a déjà noté des écarts par rapport aux simulations réalisées sur les modèles actuels concernant le noyau de la planète qui a été traversé par certaines de ces ondes. Par ailleurs, les images à haute résolution de MRO du plus gros cratère ont mis en évidence des traces claires qui sont de la glace, remontée par l'impact depuis une profondeur d'environ 10 mètres. C'est une surprise car on ne s'attendait pas à en trouver si peu profondément dans le sol à une telle latitude, c'est dans les 20 degrés au nord de l'équateur martien. Là encore, il nous faut peut-être revoir nos modèles de répartition de la glace près de la surface de Mars. Et cela peut avoir des conséquences importantes pour de futures missions habitées, car l'abondance de glace, donc d'eau facilement exploitable, pourrait favoriser l'approvisionnement des astronautes pour leurs besoins en eau, mais aussi en oxygène, en le séparant de l'hydrogène de la molécule H2O. Ces deux gaz pouvant aussi être utilisés comme carburant pour une fusée de retour vers la Terre. J'ajoute une petite info que j'ai oublié de marquer pour pas vous surprendre, Joël. En cherchant plus précisément des informations sur InSight, j'ai vu qu'elle allait sans doute très bientôt s'arrêter de fonctionner, on pense dans les 6 semaines qui viennent, parce que tout simplement, comme ça arrive souvent aux sondes martiennes, ces panneaux solaires qui l'alimentent en électricité se recouvrent progressivement de poussière, et on pense que très bientôt, elle n'aura plus assez d'énergie pour continuer à fonctionner.
Très bien, c'était important de le préciser. Merci Michel. Allez, on arrive à la troisième partie de votre chronique astro et vous allez nous parler du ciel du mois.
Alors, je n'aurai pas le temps de parler en détail du ciel du mois de novembre et je renvoie donc nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir les informations détaillées. Je le mettrai à jour pour novembre aujourd'hui ou demain. Je peux juste indiquer rapidement qu'en raison du raccourcissement des jours, mais surtout du passage à l'heure d'hiver le week-end dernier, la nuit noire survient maintenant bien plus tôt, vers 19h ces jours-ci, 18h30 à la fin du mois. Le raccourcissement des jours compensant en partie le décalage du ciel vers l'ouest au fil des saisons, on a encore en ce moment un partage qui ressemble au ciel de la fin de l'été entre les constellations de l'été du côté ouest, sauf le Sagittaire et le Scorpion qui sont déjà couchés ou presque, et la Voie lactée dressée presque verticalement, et celle de l'automne dans la moitié est, notamment Pégase et Andromède, puis celle de l'hiver qui commence à se lever un peu plus tard, notamment le Taureau avec Mars. On ne peut pas rater le phare très brillant qu'est Jupiter vers le sud, et un peu plus à l'ouest, Saturne, qui est reconnaissable à sa couleur un peu jaunâtre. Ces deux planètes sont dans une période d'observation favorable, car assez haute dans le ciel dès le début de nuit. En fin de mois, la situation sera encore assez similaire, avec Mars visible un peu plus tôt. Et j'avais rajouté que notre prochaine chronique devrait être en principe le mercredi 30 novembre, et on reparlera de Mars parce que début décembre, le 8 décembre, se déroulera un phénomène un peu particulier qu'on appelle une occultation. La Lune va passer devant Mars, et ce sera la bonne occasion d'en parler.
Allez Michel, rappelez-nous le site où on peut retrouver toutes les chroniques archivées, puis ça permet d'avoir des compléments d'infos.
www.constellationsetgalaxies.org. Il y a une espèce de menu en haut de la page avec la rubrique astronomie dans laquelle on trouve les chroniques de radio depuis la première en septembre 2014, donc on en a bientôt une centaine. Et la partie ciel du mois avec les cartes et plus d'explications que ce que j'ai pu donner là sur, disons, les observations faciles à faire à l'œil nu dans le ciel pour le mois de novembre.
Allez, merci beaucoup Michel. Voilà, puis en raison de l'actu, voilà, ça a décalé un petit peu la chronique. Voilà, mais on vous remercie particulièrement bien sûr chaque fois de venir dans des départements voisins et amis de la Gironde pour venir présenter en direct cette chronique. Donc vraiment grand merci à vous Michel Favret.